Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre invitée pour cette nouvelle émission au fil des pages vient nous présenter ses mémoires intitulées « Dans le secret des êtres vivants ». 50 ans de recherche, pour ne pas dire plus, au cœur de la biologie du développement. Son travail s'est notamment porté sur des chimères de Kai Poulet, à partir desquelles elle a étudié le comportement même des cellules ainsi que leur fonctionnement au cours du développement. Elle les a décrits, mais aussi analysés dans leurs mécanismes fondamentaux. J'ai le plaisir de recevoir dans cette nouvelle émission Fil des pages, Nicole Ledouarin. Madame, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Academy. Vous êtes secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France. Je précise également grand croix de la Légion d'honneur. Je le précise puisqu'il n'y a que 9 femmes à porter cette distinction à ce jour. Et vous êtes reconnue sur le plan international pour vos recherches en embryologie. Des travaux que vous nous faites partager dans votre livre paru chez Robert Laffont, Dans le secret des êtres vivants, paru en janvier 2012, et où vous nous livrez aussi tour à tour vos souvenirs d'enfance, l'évolution de la place des femmes dans notre société, particulièrement dans le monde de la recherche. Et vous nous en parlerez au cours de cette émission, évolution que vous avez vécue pleinement. Et puis, vous nous faites également partager certaines rencontres des personnalités scientifiques que vous citez, et notamment, une grande place est accordée dans votre livre à Étienne Wolff, qui vous a accordé justement toute sa confiance. Vous avez travaillé avec lui dans son laboratoire, nous en reparlerons également au cours de cette émission. Étienne Wolff, qui était membre de l'Académie des sciences, de l'Académie de médecine, mais également de l'Académie française. Et tout cela, bien sûr, pour venir jusqu'à lui, quelques méandres pour arriver jusqu'à son laboratoire à Nogent en 1961. Et c'est la première partie de votre livre où vous faites référence à votre enfance et à la chance d'avoir été, dites-vous, élevé comme un garçon, à savoir d'avoir eu la chance de bénéficier d'un enseignement scolaire qui ne soit pas stéréotypé, Nicole Ledouarin.
Oui, c'est vrai, parce que j'étais élève pendant toute mon enfance, pendant toute ma scolarité primaire, de ma propre mère, qui était institutrice dans un petit village en Bretagne, appelé Locoalmindon, et elle était la seule et unique institutrice avec une classe unique, c'est-à-dire qu'elle avait des enfants auxquels il fallait qu'elle apprenne à lire, et puis elle en avait d'autres qu'il fallait qu'elle prépare au certificat d'études, et qui à cette époque-là se passait à 14 ans. Et puis évidemment, elle avait tous les intermédiaires. Elle n'avait pas beaucoup d'élèves, parce que la plupart des enfants à l'époque dans cette région de Bretagne allaient à une école religieuse, à l'école catholique. Là, il s'agissait de l'école de la République et elle était gratuite, mais elle n'avait pas la faveur de la plupart des familles. Elle a eu du mal à s'installer, l'école de la République, dans certaines zones de France. Mais en tout cas, j'étais son élève tout du long et j'ai commencé à suivre les enseignements quand j'étais toute petite parce que j'étais au fond de la classe, j'avais une petite table pour moi toute seule et j'étais supposée rester tranquille, écouter si j'avais envie, faire des petits dessins. Et c'est comme ça que toute petite, en regardant et en écoutant ce qui se passait, j'ai appris à lire toute seule. Et puis ensuite, j'ai été élevée d'une façon telle qu'il n'y avait pas vraiment de séparation entre la maison et puis l'école, de sorte que l'école a toujours été pour moi quelque chose de plutôt distrayant.
Mais alors, la séparation a dû être difficile lorsque justement vous êtes partie au collège.
La séparation a été très difficile. Ça, j'en garde pas un bon souvenir du tout. Il a fallu que j'aille en pension parce que c'était la guerre. Et puis parce que, évidemment, à Locoalmindon, il n'y avait pas d'école secondaire. C'était tout naturel que j'aille dans une école qui se situait pas très loin, c'est-à-dire à 30 kilomètres, à Lorient. Mais Lorient, à cette époque-là, il était victime de bombardements très très fréquents. Les Allemands y avaient installé une base sous-marine qui était la cible des bombardements alliés. Et alors, la population avait été évacuée de Lorient. Lorient n'était plus occupé, il n'y avait plus personne, sauf les militaires allemands. Et de ce fait-là, il a fallu aller dans un lycée situé plus loin et je suis allée au lycée de Nantes, au lycée Gabriel Guisto à Nantes. Et il fallait 5 heures à l'époque pour aller depuis Locoalmindon, plutôt la gare de Landaule qui était déjà à 1 heure de Locoalmindon à bicyclette. Et il fallait 5 heures pour rejoindre 150 kilomètres de là, la ville de Nantes. C'était donc une séparation difficile avec mes parents. Puis en plus, vous savez, c'était la guerre, il y avait beaucoup de privations, on était très mal chauffés, alors que j'avais eu jusque-là une vie dans un cocon plutôt très confortable.
Et alors initialement, vous avez plutôt un cursus littéraire, comme c'est souvent le cas pour les filles?
Oui, j'avais un cursus littéraire, je faisais du grec et du latin, mais j'aimais beaucoup ça, le grec et le latin, surtout le grec d'ailleurs, je trouvais ça très poétique, et souvent les textes qu'on étudiait. Tandis que les textes latins, c'était plutôt guerrier, politique, tout ça, Cicéron, oui, enfin, c'était moins drôle. Mais néanmoins, je me rappelle que j'aimais aussi bien les mathématiques et qu'en seconde, il a fallu choisir vraiment entre un programme purement, avec très peu de mathématiques, et puis, ou bien alors, il fallait passer un bac de mathématiques élémentaires. Et alors, j'ai choisi le bac littéraire, mais j'ai continué à faire des maths avec une personne qui me donnait des cours. J'avais l'envie de faire les deux programmes. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé finalement le bac de philo, puis que ensuite, pendant les vacances, j'ai étudié le programme du bac de sciences expérimentales et j'ai passé le bac de sciences expérimentales. Il y avait deux sessions de bac à cette époque-là. Il y avait une session en juin, une session en septembre. Donc, j'ai les deux bacs, voilà. Ça m'a permis, au début j'ai commencé à faire des études littéraires et puis je suis venue à Paris. Ça aussi ça a été difficile parce que c'était dur à cette époque.
Mais vous n'étiez pas seule?
Non, j'étais
avec, accompagnée.
Ah oui, j'étais accompagnée avec un jeune homme qui est devenu mon mari, qui s'appelle Georges Ledouarin. Et puis là j'ai changé, au bout d'un an j'ai décidé de faire des sciences naturelles. Et je suis devenue professeure de sciences naturelles dans un lycée.
Alors justement, c'est un chemin que vous allez faire tous les deux avec votre mari. Hein. Vous allez épouser Georges Ledouarin en 1951. Oui. Et puis, donc, vous allez faire ce chemin ensemble. Vous inscrivez tous les deux pour pouvoir faire des sciences. Vous allez tous les deux devenir professeurs de sciences naturelles.
Oui.
Et vous allez repartir
à Caen.
À Caen, cette fois-ci.
Oui, parce que quand on avait passé l'agrégation, il était indispensable de faire, même si on n'était pas décidé à habiter la province. Nous, on voulait habiter Paris, rester à Paris, mais c'était impossible. Il fallait aller au moins 3 ans dans une ville de province. Donc, nous avons été nommés tous les deux à Caen. Et c'est là que nous avons rencontré des amis qui avaient eu le même sort, mais qui avaient une autre spécialité. C'était Michel Perrault et Jean-Claude, son mari. C'était historiens tous les deux. Et puis Mona Ouzouf, qui était philosophe. Et puis son mari, Jacques, qui était historien aussi. De sorte qu'on était 3 couples de gens jeunes qui avons été en quelque sorte nommés à peu près à la même époque, à une année près peut-être, je ne me rappelle plus très bien. Et nous avons passé quelques années ensemble là, et on avait les mêmes élèves, etc.
C'est incroyable, parce que vous êtes aujourd'hui, Michel Perrault, Mona Ouzouf et vous, 3 grandes figures, 3 grandes femmes,
oui, c'est amusant,
des sciences, philosophes, et de la philosophie et de l'histoire. Et vous êtes retrouvées toutes les 3 dans ce lycée, et puis après faire votre carrière. Et donc dans cette préface, dans votre livre, dans Le secret des êtres vivants, elles expliquent les 400 coups que vous avez faits, tous les 6.
Oui, on a eu une bonne période à cette époque-là, on était assez insouciants. Et puis on a été tous rapatriés, si j'ose dire, enfin nommés à Paris par la suite. Et nous avons continué. On s'est perdu de vue un petit peu au moment où on était le plus impliqués dans nos travaux. Et puis on s'est retrouvés après. Et surtout les 3 dames se sont retrouvées. Et on était heureuses. On était heureuses de se retrouver. On se voit régulièrement.
Justement, donc, cette partie-là, l'enseignement auprès des élèves, va durer un temps. Et très vite, vous vous rendez compte, vous et votre mari aussi, que vous voulez aller plus loin. C'est la recherche, en fait, qui va vous intéresser particulièrement.
Mon mari, lui, ce qui l'intéressait beaucoup, ce qu'il aurait voulu faire, c'est la médecine. Alors, pendant qu'on était à Caen, il a fait des études de médecine tout en étant professeur. Et puis, quand il est revenu à Paris, là, c'est devenu impossible. Il n'y a eu aucune facilité qui lui ait été consentie pour qu'il puisse suivre l'enseignement qui était trop dense. Alors, il a arrêté et il est venu avec moi chez Étienne Wolff pour faire une thèse. On a donc fait tous les deux une thèse de sciences. Et après, on est passé dans l'enseignement supérieur.
Étienne Wolff était déjà un grand patron, un grand monsieur de l'embryologie. Comment êtes-vous rentrés tous les deux dans ce laboratoire?
C'est très amusant, parce que c'est moi qui ai eu de la chance. Parce que voilà, j'avais l'intention de faire quelque chose à côté de mon enseignement secondaire. Parce qu'on avait quand même un peu de temps. En principe, pour se cultiver, donc c'était tout naturel que j'essaye de faire quelque chose. Et j'ai essayé de rentrer dans un laboratoire. En particulier, j'ai essayé d'aller à l'Institut du cancer de Villejuif, Parce qu'il y avait là une dame, une des très rares femmes professeurs de l'époque, qui s'appelait Mademoiselle Le Breton et qui était une biologiste cellulaire qui avait un laboratoire à cet institut. Elle faisait des cours de physiologie. Moi, j'avais suivi le certificat de physiologie et j'avais trouvé que c'était passionnant ce qu'elle racontait. Donc, je suis allée la voir. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me prendre comme ça? Je viendrai quand je pourrai. Je vous demande pas du tout d'argent. J'ai un salaire, donc c'est juste bénévole. Elle m'a dit, ben, j'aimerais bien, mais malheureusement, je n'ai pas du tout de place. Enfin, je ne peux pas vous prendre. Alors, elle m'a dit non. Après ça, je me suis dit, je vais peut-être faire un certificat dans un domaine que je n'ai pas beaucoup approfondi, qui était le certificat de chimie biologique. Alors là, je suis allée voir une chef de travaux, c'était une dame aussi, et je lui ai dit, voilà, je voudrais faire le certificat de chimie biologique à mes heures creuses, enfin aux heures où je peux me libérer. Elle m'a dit, non, non, c'est impossible parce qu'il faut venir tous les après-midi faire des TP. Je lui ai dit, mais je peux venir le soir, vous savez, je peux m'arranger, etc. Elle m'a dit, il n'est pas question. Mais de toute manière, vous avez un mari, vous avez deux enfants, vous avez un métier, ça suffit pour vous, vous n'avez pas besoin de faire plus. Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, eh bien, alors, je n'ai pas le profil du tout pour faire quoi que ce soit, si ce n'est continuer gentiment à être professeur de lycée. J'étais un peu découragée. Et il se trouve qu'en me promenant dans Paris, pourtant je ne me promenais pas tellement dans Paris, mais un jour j'ai trouvé sur le trottoir une amie avec qui j'avais fait ma licence. Elle s'appelle Léa Marin, toujours elle a fait sa carrière au CNRS. Elle avait commencé directement à être chercheure alors que moi j'avais fait l'agrégation. Et alors je lui dis, elle me dit, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Alors je lui dis, ben, moi je suis professeure, j'aurais voulu faire de la recherche, mais je vois que c'est impossible. Elle m'a dit, mais peut-être pas impossible, parce que moi, je suis chez un patron qui est formidable, et peut-être il s'appelle Wolf, et il a commencé dans sa vie à faire de l'agrégation comme toi, et puis il a aussi fait un peu d'enseignement. Il va comprendre ton problème. Alors, viens, je vais me débrouiller pour t'avoir un rendez-vous. Et c'est ainsi que j'ai connu M. Wolf, et qu'il m'a pris sous son aile. Et alors, du coup, mon mari aussi l'a pris en même temps. Et de sorte qu'on a fait une thèse tous les deux.
Vous avez travaillé avec lui pendant 5 ans?
Oui, je suis restée dans son labo, mais j'ai fait ma thèse en un peu moins de temps que ça, enfin 4-5 ans, oui. Et puis après, alors j'avais l'intention, mais mon mari avait des propositions pour être professeur, enfin maître de conférence, ça s'appelait à l'époque. Il avait une proposition à Lille, il avait une proposition à Clermont-Ferrand et une autre à Nantes. C'est très, très rare d'avoir tant que ça de possibilités. Alors, il ne pouvait pas les prendre toutes les trois. De toute façon, il ne pouvait en prendre qu'une. Et moi, j'avais l'intention d'aller avec lui, avec mon poste CNRS. J'avais un poste CNRS. Étienne Wolf m'a dit, mais écoutez, oui, évidemment, c'est bien, mais je préférerais que vous soyez professeur vous-même, comme lui, parce que vous pouvez monter votre laboratoire. Vous êtes capable, vous avez la capacité. Donc, il faut que le poste que votre mari va prendre, il n'a qu'à le prendre, puis vous, vous allez en prendre un autre, qui ne prend pas. Alors, je lui dis, mais enfin, on ne peut pas habiter comme ça, avec des enfants, l'un à Nantes et l'autre à Dieu sait où. Alors, il me dit, bah oui, mais vous savez, les postes, ça ne court pas les rues. Alors, c'est un moment important, c'est un choix à faire. Peut-être que vous feriez bien de réfléchir. Alors, on a réfléchi. Et puis, moi, finalement, j'ai pris le poste de Clermont-Ferrand. Et comme ça, j'allais à Clermont-Ferrand. On avait un logement ici, au Perret-sur-Marne, là, à côté de Nogent. Et puis, je prenais le train début de la semaine. Et lui, il prenait le train pour aller à Nantes à la fin de la semaine. Comme ça, il y avait toujours quelqu'un avec les enfants. Mais on avait quand même une personne qui s'occupait des enfants en demeure. Mais enfin, c'était difficile. Hein. Prendre le train comme ça toutes les semaines. Et puis, en plus, faire des expériences, etc. Parce que je n'ai jamais arrêté de faire des expériences. En particulier, là-bas, à Clermont-Ferrand, on m'a confié non seulement un énorme programme de cours à faire, mais deux jeunes élèves, deux jeunes femmes, qui préparait, vous savez, des diplômes d'études supérieures pour pouvoir progresser. Et ça devait être de la recherche. Alors, quand j'arrivais, je faisais mes cours très tôt le matin et après toute la journée, je travaillais avec elle. Et c'est là que j'ai commencé à avoir en main des œufs de caille. C'est là que j'ai trouvé les premiers œufs de caille.
Et on va y venir, puisqu'effectivement, dans ce laboratoire avec Étienne Wolf, le laboratoire s'intitule un laboratoire d'embryologie et de tératologie, c'est-à-dire la science des monstres, hein, oui, disons-le. Il s'agit de travailler sur les anomalies pour comprendre le normal. Et donc, vous allez travailler justement sur les embryons de poulet au début.
Ah oui, parce que c'était le principal matériel expérimental de ce laboratoire. Et il y avait aussi des gens qui travaillaient sur les amphibiens, vous savez, sur les œufs de grenouille, parce que ça, c'était pour les embryologistes un matériel de choix. C'est sur ces animaux qu'ont été faites les premières grandes découvertes en embryologie par l'école allemande et en particulier son représentant Spemann. Mais le poulet aussi était un modèle important. Et alors, j'ai travaillé sur embryon de poulet.
Embryon de poulet, puis comme vous le disiez, donc un an à Clermont-Ferrand, où là, vous découvrez les œufs de caille. Mmh. Et puis, vous y passez un an ou un an et demi à Clermont-Ferrand.
Un an.
Mmh. Et après, vous rejoignez votre mari à Nantes.
Oui, j'ai réussi à avoir un poste à Nantes, parce que l'idée quand même derrière tous ces choix qu'on avait faits, c'est que Nantes était une université, vous savez, tout à fait nouvelle, qui avait été créée. Il n'y avait pas d'université à Nantes pendant de nombreuses, peut-être des siècles. Il y en avait eu une très tôt dans l'histoire et puis ensuite elle avait été supprimée. Et puis elle a été recréée dans les années 50, la fin des années 50. Et donc il y avait des postes ouverts et puis enfin c'était dans l'époque où il y avait eu une expansion du CNRS, c'était dans les 30 Glorieuses. Donc ce n'était pas la situation que nous connaissons maintenant où il est si difficile d'avoir des postes nouveaux de créer.
Et alors, justement, à Nantes, vous allez pouvoir créer votre propre laboratoire et travailler de manière indépendante et commencer, justement, à travailler sur ces cellules de poulet et de caille que vous allez commencer à associer.
Oui. Oui, alors c'était parce que j'ai développé un programme de recherche indépendant, en effet, à Nantes, et c'est qui était un peu la continuation de la recherche que j'avais faite pour ma thèse. Et pour ma thèse, j'avais travaillé sur le développement du foie. Comment une cellule embryonnaire de l'endoderme, vous savez, cette couche interne qu'ont les embryons, peut-elle se transformer en une espèce d'usine qui est extraordinairement féconde en protéines que sont les cellules hépatiques qui sont si importantes pour l'économie générale de l'organisme. Alors, j'avais remarqué qu'une des modifications morphologiques, puisqu'à l'époque, on faisait beaucoup de morphologie, on regardait au microscope, on n'avait pas toutes les méthodes que l'on a maintenant pour aller beaucoup plus profond dans l'analyse des phénomènes de la vie et des phénomènes du développement. Et je voyais qu'il y avait dans le noyau une modification importante, et en particulier un organite à l'intérieur du noyau qui devenait beaucoup plus gros quand les cellules endodermiques se différenciaient en cellules hépatiques. Et alors, je faisais des cultures avec une de mes élèves de l'époque, qui maintenant est professeure à Nantes d'ailleurs, pour essayer d'analyser quels sont les mécanismes qui permettent à cette cellule de se différencier. Et j'ai vu que j'avais associé des tissus de poulet et des tissus de caille, comme ça, pour refaire une expérience que j'avais déjà faite avec seulement du poulet. Mais là, j'ai voulu faire une expérience chimérique en associant les deux tissus pour voir si les phénomènes d'interaction entre les cellules peuvent se faire aussi bien quand les deux tissus n'appartiennent pas à la même espèce que quand ils appartiennent à la même espèce. Puisque les deux espèces étaient voisines, la caille et le poulet, c'est quand même voisin. Et j'ai trouvé que les phénomènes se font vraiment de la même façon, même si on a une cellule de caille et une cellule de poulet qui interagissent entre elles. Donc ça, c'était un résultat, mais ce n'était pas le principal. Parce que ce qui m'avait frappé là, c'est que les cellules qui permettent à l'endoderme de devenir un hépatocyte, c'est des cellules de mésenchyme, c'est des cellules de mésoderme. Et ces cellules de mésoderme, elles ne se transforment pas en hépatocyte. Elles sont simplement là pour donner un facteur trophique. Mais là, j'avais remarqué que quand j'avais des cellules mésenchymateuses de caille associées avec de l'endoderme de poulet, non seulement l'endoderme de poulet avait un gros nucléole dans son noyau, mais aussi ces cellules mésenchymateuses qui n'auraient pas dû. Donc je me suis dit, les cellules de caille ont quelque chose de spécial. Elles ont quelque chose de particulier dans le noyau. Et c'est comme ça que j'ai trouvé qu'elles avaient une caractéristique qui permettait de les reconnaître. N'importe quelle cellule de caille avec n'importe quelle cellule de poulet, elles avaient cette caractéristique. Parce qu'il y a d'autres gens qui avaient travaillé sur la caille, qui avaient regardé ça, mais qui n'avaient pas fait attention à ça, parce qu'ils n'étaient pas intéressés par le problème du noyau, vous voyez, des problèmes cytologiques particuliers.
Alors cela vous permet de suivre justement la migration de ces cellules?
C'est ça. Alors comme ce sont des espèces voisines, je me suis dit, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre un embryon de poulet, puis alors j'étudiais en particulier une structure qu'on appelle la crête neurale, dont on savait déjà que les cellules étaient migrantes pendant la vie embryonnaire, elles migrent, elles envahissent le corps, partant de la région dorsale du système nerveux. Alors je me suis dit, mais on ne sait pas très bien où elles migrent, comment elles migrent, etc. Et on ne connaît pas bien quelles sont leurs dérivées et tout. Alors je vais prendre un poulet, je vais remplacer des régions de cette zone de l'ébauche neurale, qui contiennent la crête neurale, par l'équivalent provenant de la caille. Je vais laisser le poulet survivre et puis se développer. Et puis après, je vais rechercher les cellules de caille que j'ai implantées pour savoir si elles sont restées en place ou si elles ont migré. Et si elles ont migré, où et pour faire quoi? Et voilà, j'ai fait ça. Et puis, ça a été d'une fécondité extrême. Et ça s'est appliqué, cette méthode de chimère caille-poulet, à l'étude de beaucoup d'autres problèmes. Pas seulement le système nerveux.
Alors, ce qui est intéressant, justement, dans ces chimères, entre autres, ce qui est intéressant dans ces chimères caille-poulet, c'est qu'il n'y a pas de rejet au début, enfin, en tout cas, au moment de la phase de développement chez l'embryon. Et puis, une fois qu'il y a éclosion, une fois que ces caille-poulets naissent, au bout d'un moment, eh bien, ils meurent puisqu'il y a rejet de la greffe. Alors, comment expliquer que ce rejet intervienne à ce moment-là?
Alors ça, vous voyez, j'ai fait de l'immunologie après. J'ai fait travailler le système nerveux, mais après, j'ai fait de l'immunologie. Pour deux raisons. La première raison, c'est que dans l'organisme, il n'y a pas que les cellules du système nerveux qui migrent. Il y a aussi les cellules qui vont donner le sang, les cellules sanguines. Or, les migrations des cellules sanguines, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié dans mon laboratoire, par moi-même et mes élèves, mais surtout par Mme Dieterlin, qui a fait son laboratoire indépendant en Nogent aussi et qui s'intéressait beaucoup à ces problèmes-là. Mais moi, ce qui m'a intéressé beaucoup dans les problèmes hématopoïétiques, c'est que ces cellules qui appartiennent au sang sont aussi les cellules qui permettent de lutter contre les microbes. C'est-à-dire, c'est des cellules de l'immunité, et aussi des cellules qui interviennent dans le rejet des greffes. Et puis, la deuxième raison pour laquelle je me suis intéressée à l'immunologie, c'est justement que les greffons que l'on avait introduits et qui étaient parfaitement tolérés pendant la vie embryonnaire, ils n'étaient pas du tout tolérés pendant la vie adulte. Parce qu'à partir d'un certain moment, au cours de la vie embryonnaire, le système immunitaire se construit et qu'une fois que le système immunitaire s'est construit, eh bien, il devient capable de fonctionner. Et le fonctionnement du système immunitaire chez les oiseaux commence après la naissance, après 15 jours après la naissance. Et c'est là que l'animal peut, premièrement, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne lui appartient pas, qui se trouve dans son corps, et deuxièmement, qui peut lutter contre cette chose. C'est pourquoi la greffe est rejetée. Mais l'intérêt de tout ça, c'est que la théorie, le dogme qui était en cours à l'époque, était que dans la mesure où une cellule a été dans votre organisme pendant le développement, les cellules de l'immunité vont reconnaître cette cellule, même si elle est étrangère, comme soi. Or, de toute évidence, ça n'était pas le cas. Il y a des cellules qui sont reconnues comme self, comme soi, mais ce sont des cellules qui appartiennent au sang. Et enfin, c'est toute une histoire que je ne peux pas vous raconter maintenant, mais ça posait un vrai problème. Et j'ai étudié ça beaucoup avec un certain groupe de mes élèves, et on a trouvé qu'il y avait dans le thymus la capacité à produire des cellules qui réagissent contre les cellules du non-soi et même contre le rejet de certaines cellules du soi qui n'ont pas été des cellules qui appartiennent à l'organisme, qui n'ont pas été exposées au bon moment et au bon endroit aux cellules en cours de cellules T en cours de différenciation. Donc enfin, on a ouvert un chapitre. Et maintenant, on reconnaît des nouvelles cellules T, qu'on appelle cellules T régulatrices, qui sont instruites dans le thymus pour contribuer à la tolérance vis-à-vis du soi.
Vous expliquez dans votre livre justement que ces cellules sanguines ont une immunité adaptative par opposition à l'immunité innée.
L'immunité innée dont on parle beaucoup maintenant, grâce aux travaux qui se sont faits à Strasbourg, dans le laboratoire de M. Hoffmann, et qui ont montré en quoi consiste l'immunité des insectes, et surtout qui ont montré que les mécanismes qui sont mis en œuvre dans les êtres invertébrés, les êtres plus primitifs que les vertébrés, bien ces mécanismes-là, ils sont conservés chez les vertébrés et ils sont très importants pour le démarrage, la mise en route du système immunitaire adaptatif qui est beaucoup plus sophistiqué, qui permet une action de longue durée qui même possède une mémoire immunologique et qui est celle que nous avons développée, nous, les vertébrés.
Et alors, ce phénomène de rejet, de greffe, vous l'expliquez très bien dans votre livre, hein, effectivement, c'est le cas pour ces chimères de caille-poulet. qui sont donc dites des chimères de substitution. Mais pour les chimères d'agrégation, comme les chimères de chèvre-mouton, là, il n'y a pas de rejet.
Alors, là, il n'y a pas de rejet du tout.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi?
Parce que le thymus, comme tout et le sang, sont chimériques. Tandis que dans les chimères où on substitue seulement une région, comme un fragment du système nerveux, par exemple, à ce moment-là, il y a rejet. Mais moi, j'ai fabriqué des chimères avec, par exemple, un membre qui va être étranger, hein, substitue le membre. Mais si on substitue aussi la trame thymique, si on substitue une partie du thymus, eh bien, à ce moment-là, le membre n'est pas rejeté. On refait, si vous voulez, une chimère qui ressemble plus à la chimère d'agrégation.
Alors, on avance dans notre émission. Je vous propose d'aborder la troisième partie de votre livre. Bien sûr, il faudrait plus d'une demi-heure pour parler de vos mémoires. Dans cette troisième partie, vous abordez plusieurs points, notamment votre rapport avec l'Académie des sciences.
Ah oui.
Vous y entrez en 1982 et vous précisez qu'aujourd'hui, il y a 240 membres à l'Académie des sciences, dont 22 femmes. Alors, à nous d'en tirer les conclusions. Mais puisque en filigrane de votre ouvrage, on voit bien aussi la place que les femmes occupent ou occupaient dans le domaine des sciences et qu'elle était justement très minime, j'aimerais savoir justement quel est votre rapport à cette question-là, qui est la place des femmes dans la société, notamment dans la recherche.
Écoutez, moi, c'est vrai que quand j'ai commencé, il y avait pas mal de femmes dans les laboratoires, surtout les laborantines, presque toutes des femmes. Laborantines, c'est-à-dire les techniciennes. Il y avait aussi des femmes qui faisaient de la recherche, mais il n'y avait presque pas de femmes qui dirigeaient.
Elles étaient assistantes.
Ben, c'est-à-dire que grâce au CNRS, elles avaient un titre qui pouvait être directeur de recherche. Mais de là à diriger un laboratoire, c'est avoir la responsabilité du personnel, la responsabilité des programmes, la responsabilité du budget, etc. C'est une autre histoire. Et ça, il n'y avait presque pas de femmes qui étaient invitées à devenir cela. Même si, dans la réalité, elles jouaient le rôle du directeur. Mais c'était souvent l'épouse d'un professeur ou bien une personne qui était avec le professeur depuis longtemps. Elle avait fait sa thèse avec lui, etc. Elle s'était développée, mais elle n'avait jamais eu le titre. Alors, il y en avait quelques-unes, mais il y en avait peu. Les choses ont changé, particulièrement grâce au CNRS, parce que, et puis l'INSERM aussi, sans doute, qui est arrivé après, mais en tout cas grâce au CNRS, parce que petit à petit, on a donné plus d'indépendance aux personnes. Et après mai 68, notamment, le rôle du professeur d'université est devenu beaucoup moins important, c'est-à-dire ils sont devenus beaucoup moins puissants, surtout. Et les crédits étaient distribués par le CNRS plutôt que d'être distribués par le ministère de l'Éducation. Oui, ça a beaucoup changé. Et alors maintenant, ça change complètement. Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les laboratoires et puis maintenant, on les laisse s'exprimer. Alors par exemple, mes élèves, j'ai eu beaucoup d'élèves femmes. C'est pas que je les ai recherchées particulièrement, mais c'est parce qu'elles venaient. Pourquoi est-ce qu'elles venaient? Ben sans doute parce qu'elles se disaient que si elles avaient des enfants, par exemple, je n'allais pas faire la grise mine en les voyant partir à 5 heures pour chercher le petit ou des choses comme ça. Ou bien si elles étaient obligées de rester à la maison parce que l'enfant avait une grosse fièvre et qu'elle n'avait personne pour le garder. Moi, je comprenais ça, c'était même pas la peine de m'expliquer. Hein. C'était évident, mais je n'ai jamais même réfléchi à la question, mais les gens devaient se... Bon, alors donc, j'ai eu beaucoup de femmes. Et alors, il y a des femmes de mon labo qui ont fait des carrières formidable. Il y en a une qui était une normalienne et qui maintenant est professeure à Harvard, la meilleure université du monde, si j'ai bien compris. Du moins, c'est la réputation qu'elle a. Et en tout cas, elle est non seulement professeure, mais elle est ce qu'on appelle chairman, c'est-à-dire elle est directeur de tout le département. Elle a la responsabilité de tout le département. Alors, ça, c'est un cas. Il y en a une autre au Japon. Il faut le faire, c'est très 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 machiste le Japon, c'est bien pire qu'ici. Hein. Alors elle est venue chez moi, elle est restée 3 ans en post-doc, chercheur post-doctorat, et elle est devenue professeure à l'université de Kyoto. Elle me dit souvent, vous savez, quand je me dis que je ne vais pas y arriver, je pense à vous. Ça me fait rire, mais c'est comme ça. Et il y en a une autre qui est professeure à l'université de Jérusalem, à l'école de médecine de Jérusalem, une autre femme. Il y a une autre femme qui a fait des très, très bonnes recherches dans un institut. Elle a été à Lausanne. Elle travaille sur le diabète. Elle fait des choses superbes. s'appelait Anne Grappin, l'autre c'était Catherine Dulac, Yoshiko Takahashi, Raya Kalchem, tout ça c'est des femmes qui ont très bien réussi. Il y a aussi des hommes qui ont très très bien réussi, hein, dans les gens qui sont passés par nos gens. J'avais pas du tout de ségrégation. D'ailleurs, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que je ne me suis jamais préoccupée du genre masculin ou féminin des gens qui travaillaient avec moi, mais que ma mère non plus, quand elle était à l'école primaire, c'était une école mixte. Comme c'était une école publique, comme il n'y avait pas beaucoup d'élèves, il y avait garçons et filles ensemble.
Vous étiez dans une bulle, mais après, il y avait la réalité autour qui était un peu différente, qui vous rappelait que...
C'est vrai,
voilà, mais, il y avait un décalage.
Mais personnellement, je n'ai jamais pensé que les filles avaient moins de capacités que les garçons, si vous voulez, à apprendre ou à faire, ou à tenir le coup, ou à être courageux, vous voyez.
Alors Mona Ouzouf et Michel Perrault rappellent dans leur préface que les mathématiques étaient fortement déconseillées aux femmes parce qu'elles n'avaient pas forcément le cerveau.
Oui, mais il y a eu tout un tas de choses de ce genre-là qui ont couru. Mais maintenant, ça commence à disparaître.
Est-ce que vous diriez que vous êtes féministe ou pas spécialement?
Oh oui, un peu quand même. Je ne suis pas une militante, mais enfin, je trouve que, écoutez, ça dépend comment on entend les choses. Moi, je ne souhaite pas du tout qu'on discrimine les hommes par rapport aux femmes, comme on a beaucoup discriminé les femmes par rapport aux hommes, mais je souhaite qu'il y ait une justice et que les deux soient traités d'une manière identique.
Dans la dernière partie de votre ouvrage, vous parlez aussi d'un besoin d'une culture scientifique. Sans culture commune, pas de débat possible. Alors j'imagine que vous faites référence à un débat qui vous est cher, qui est celui sur les cellules souches embryonnaires,
oui.
Mais également le débat sur les OGM, le réchauffement climatique, le nucléaire. Quel est votre regard justement sur cette culture scientifique commune?
Écoutez, moi je remarque vraiment, parce que maintenant que j'ai plus de temps, puisque je n'ai plus de fonction officielle et prenante, je me consacre beaucoup à la transmission. Et j'aime beaucoup parler à des gens qui sont avides de savoir, mais qui n'ont pas particulièrement les bases pour comprendre la science. Donc faire de la vulgarisation. D'abord, j'écris des livres de science qui ne sont pas de la vulgarisation très simple. Enfin, je fais des efforts pour être compréhensible quand même. Mais je fais aussi des... Par exemple, on m'invite souvent à faire des présentations à des bars des sciences. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, vous connaissez, oui. Alors, je fais ça de temps en temps. Puis je fais beaucoup de conférences, surtout après que j'ai sorti mon livre sur les cellules souches, pour expliquer aux gens ce que c'est, parce que ça les intéresse. Ils ont de l'espoir aussi que ce sont des cellules qui vont déboucher sur des nouvelles thérapies. Donc, je me rends compte qu'il y a un besoin, qu'il y a un désir d'apprendre dans la population, mais qu'il y a beaucoup d'ignorance quand même, même chez des gens cultivés, vous voyez. Même chez des gens cultivés qui ont beaucoup de culture musicale ou bien de culture littéraire.
Il y a un cloisonnement,
vous observez. Historique. Et puis, pour la science, ils n'ont pas de complexe à ne pas savoir des choses très élémentaires. Et c'est dommage, et puis il faut changer ça. Et l'Académie des sciences, ça fait partie de ses rôles. Et quand j'étais ici, je faisais des colloques ouverts à tous sur des sujets importants. En particulier, j'en ai fait sur les cellules souches, j'en ai aussi fait sur l'immunité innée, j'en ai fait sur... beaucoup de sujets très généraux comme ça qui intéressaient les gens. Et il y avait du monde qui venait.
Dernière question, Nicole Le Douarin. Vous dites en préambule de votre livre, « Je n'avais pas de complexe, j'ai osé ». Alors aujourd'hui, pourriez-vous entreprendre des recherches que vous avez menées à l'époque où vous les avez faites? Est-ce qu'aujourd'hui,
les conditions
Oui, tout à fait.
Les conditions. Eh bien, écoutez, je me pose la question. Parce que je vois que les choses se bureaucratisent de plus en plus. Et que c'est difficile pour les jeunes aujourd'hui. C'est très difficile, vraiment, faire de la recherche. Vous savez, quand je vois que des jeunes qui ont fait des très bonnes études, qui sont allés à l'étranger, qui sont restés quelquefois plusieurs années à l'étranger, qui veulent revenir en France, et pour trouver un salaire, pour pouvoir continuer à faire des recherches, mais c'est épouvantablement compliqué, parce que les CNRS, il y a très peu de postes ouverts, et ils restent alors avec des bourses de postdoctorales, pendant des années jusqu'à 30 ans.
Avec un petit salaire.
Très petit. Très petit. Encore maintenant, leurs années passées dans ces conditions précaires leur sont comptées pour la retraite. Ça n'a pas toujours été comme ça, c'est assez récent. C'est quand même une consolation, parce que s'ils arrivent à décrocher un poste à 30 ou 35 ans, quelquefois, les années précédentes sont comptées, mais quand même c'est très difficile. Je ne sais pas si j'aurais réussi. Mais peut-être, j'aurais peut-être trouvé une solution. Parce que finalement, il faut essayer de trouver des solutions.
Je vous remercie, Nicole Edouarin. Je rappelle le titre de votre livre, Dans le secret des êtres vivants, itinéraire d'une biologiste, donc vos mémoires, paru aux éditions Robert Laffont, paru en janvier 2012. Et je le précise, pour nos auditeurs, un livre accessible aux profanes. Si, si. Il y a des encadrés spécifiques pour ceux qui maîtrisent un peu plus, mais pour ceux qui ne maîtrisent pas spécialement la chose, mais qui s'y intéressent, ça demeure très accessible et passionnant. Merci à vous d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.